Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue, welcome, welcome, tout ce genre de choses dans ce second cas, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et ce jour dans 24 notes secondes, eh bien elles bougeront très 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 loin en arrière puisque nous allons consacrer cette émission à des films qui se passent à la préhistoire. Je rappelle, néophyte, que la préhistoire, c'est ce qui précède l'histoire. Et qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est l'écriture, c'est l'invention de l'écriture qui nous a fait passer de la préhistoire à l'histoire. Alors, quelque part en Égypte d'une part, en Assyrie de l'autre, mais c'est un tout autre débat. On va rester à la préhistoire et on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'un film sorti en 1986. Alors, c'était l'adaptation de roman qui, à l'époque, avait un très très grand succès, des romans signés de Jean Howell, qui est une dame. Le roman s'appelait Le clan de l'ours des cavernes. C'était le premier d'une série de romans qui avait rencontré un très très grand succès, pardonnez-moi, lors de leur parution. Évidemment, dans ce cas-là, les producteurs de cinéma se précipitent et du coup, eh bien, on adapta à l'écran le premier volume, Le clan de la caverne des ours, mais ce fut un bide monumental puisque le film coûta à l'époque, c'était beaucoup d'argent, 15 millions de dollars et en rapporta à peine deux dans son pays. Du coup, l'idée d'adapter les autres romans de la trilogie, on s'en doute, fut rapidement oubliée. Il faut dire qu'il n'était pas forcément très très facile de reconstituer de manière convaincante la vie des hommes il y a 35 000 ans. En l'espèce, l'histoire voyait la lutte des hommes de Cro-Magnon contre les hommes de Néandertal, on sait ce qu'il en advint. Et le rôle principal du film était joué par Daryl Hannah, une blonde absolument magnifique qu'on avait vue en sirène dans Splash aux côtés de Tom Hanks, mais qui, ma foi, n'était pas forcément convaincante en femme des cavernes, pas plus que ne l'était un ours très très féroce dénommé Bart dans la vraie vie. Alors il était peut-être très très féroce, mais on l'avait déjà vu dans L'ours de Jean-Jacques Hano en 1988, c'était déjà lui qui jouait l'ours très très féroce. On le reverra ensuite dans des rôles, si on peut dire, pardonnez-moi, d'ours très très féroce dans un certain nombre de films avant que le pauvre ne décède de mort naturelle quelque part en 2000, à l'âge relativement avancé, je pense, pour un ours de 27 ans. Ma foi, c'était pas très convaincant. On va quand même écouter un extrait de la bande originale qui l'était évidemment plus. Elle était signée du grand Alan Silvestri, Le clan de la caverne des ours, dans 24 notes secondes. La musique, un brin électronique d'Alan Silvestri pour un film qui se passe il y a 35 000 ans, ma foi, pourquoi pas. Un extrait du Clan de la Caverne des Ours, un film de Michael Chapman, bon, qui devait être le début d'une trilogie, mais qui resta unique dans son genre. Un film qui se passe à la préhistoire, le sujet de ce jour dans 24 notes secondes. Et on va enchaîner avec quelque chose de tout à fait différent. En animation, mais ma foi, il y a aussi des films de la préhistoire qui se passent en animation. Et on va écouter un extrait de la bande originale de L'Âge de Glace, Ice Age, tourné en 2002 par Chris Wedge et Carlos Saldana, pardonnez-moi, qui se passe au début d'une ère glaciaire, d'où le titre du film L'Âge de Glace, un film qui connaîtra un certain nombre de suites, considérant son grand succès, puisqu'il y aura le 2, le 3, le 4, le 5, et récemment, il me semble, un autre qui s'appelle pas le 6, mais qui en fait est le 6, et qui reprend les mêmes personnages principaux, en l'espèce un mammouth, un paresseux, c'est-à-dire un animal, le paresseux, un Sid et un tigre à dents de sabre nommé Diego. Alors dans le premier opus, ils ont charge de ramener à sa famille un enfant humain, ce qui n'est pas forcément toujours très très facile pour un tigre à dents de sabre. Évidemment, les personnages sont tout à fait irrésistibles, chacun très très typé. Le mammouth toujours exaspéré par le paresseux, toujours à faire des bêtises, et là encore le tigre à dents de sabre, toujours pour sauver tout ce joli monde. C'est plutôt bien écrit et bien réalisé, mais évidemment le coup de maître, c'est un personnage qui n'intervient pas dans l'histoire, mais qui intervient dans le film, le dénommé Scratch, qui est une sorte d'écureuil, encore que ce soit un peu prétentieux de dire que c'est un écureuil qui n'a qu'une obsession, récupérer un gland, c'est-à-dire un fruit, hein, le gland, et il essaie par tous les moyens, et en fait il n'y arrive jamais d'un épisode l'autre, puisque Scratch aura tellement de succès dans le premier opus qu'on le verra évidemment dans les suivants. C'est typiquement une figure obsessionnelle utilisée en tant que telle par les psychiatres pour décrire ce que peut être les ravages d'une obsession donnée, et Scratch contribue beaucoup, beaucoup à l'attrait de L'Âge de Glace. Il contribue aussi des partitions, ma foi, bienvenues. Pour celle du premier opus, eh bien c'était David Newman, qui descend d'une grande famille de compositeurs de musique de film qui s'y collait. On en écoute un extrait, Ice Age, L'Âge de Glace dans 24 notes, secondes. Thank you. Voilà, mais magnifique musique pour un film d'animation, mais c'est pas un reproche, au contraire. Signé David Newman pour L'Âge de Glace 1, maintenant il faut dire. Tourné en 2002 par Chris Wedge, donc un film très réussi, très très drôle, avec des personnages très très bien typés. Bizarrement, c'était les humains qui étaient le moins intéressant dans ce film. Enfin, c'est souvent le cas dans les films d'animation, voire dans la réalité. Bon, ça, je vous en laisse juger. On va passer à un autre film tourné en 2008, un film de Roland Emmerich intitulé 10 000. 10 000 pour 10 000 avant Jésus-Christ, puisque le film se situe quelque part 10 000, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Pas tellement d'importance, à quelques milliers d'années près. Évidemment, nous sommes au Moyen-Âge. Alors apparemment, on est entre le paléolithique et le néolithique. Mais enfin, Roland Emmerich lui-même, qui est quand même un gros spécialiste des films de catastrophe, disait que le film n'avait pas du tout de prétention documentaire. Et donc, il y a beaucoup d'anachronismes, entre guillemets, pour un truc qui se passe il y a 12 000 ans. Et puis surtout, ça relève plus de l'héroïque fantasy que du film sur la préhistoire, puisqu'à la fin, spoil, on voit, divulgachage, pardonnez-moi, on voit des Égyptiens construire des pyramides. Alors 12 000 ans avant Jésus-Christ, je sais que les Égyptiens, c'est ancien, mais enfin 12 000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même très 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 ancien par rapport à la date de construction des pyramides qui se situeraient plutôt quelques 2000 à 2400 années avant notre ère. Ma foi, ce n'était pas le but, il y avait beaucoup d'effets spéciaux numériques à cette époque-là, c'était encore une relative nouveauté, c'était plutôt divertissant, comme souvent avec Roland Emmerich. On avait tout oublié à la fin, comme souvent avec Roland Emmerich, mais ma foi, on avait passé un bon moment. La musique, elle est signée de Harald Closer et de Thomas Wender. Ce seraient des élèves de Hans Zimmer, que ça ne m'étonnerait pas. Bon, allez, on écoute, mais ça va pour cette fois, hein, dans 24 notes secondes. Ça ressemble effectivement à des Hans Zimmer, un extrait de la bande originale de 10 000, un film de Roland Emmerich tourné en 2008. Une histoire qui se passe dans la préhistoire, qui est le sujet de Jour de 24 notes secondes. Et on va enchaîner avec un film, cette fois tourné relativement récemment, en 2018. Un film d'aventure préhistorique, alors lui qui se passe censément encore, hein, dans le paléolithique supérieur. On voit un jeune garçon faire ami-ami avec un loup qui s'appelle Alpha. Et d'ailleurs, Alpha, c'est le le titre du film, avec là encore forts effets spéciaux. C'est pas toujours ça très convaincant, les effets spéciaux d'animaux qui sont tournés avec des vrais gens. On n'est pas dans un film de Disney, mais ma foi, on peut plus faire autrement maintenant, surtout avec un loup, quand même difficile à dresser, un loup. Le film il est réalisé par Albert Hughes, alors peut-être un nom qui ne vous dira pas grand-chose, mais avec son frère Alan, Albert Hughes avait réalisé 3 films qui sont... relativement cultissime, il faut le reconnaître. Alors, il y avait d'abord eu Menace to Society en 1993, From Hell avec Johnny Depp, si je me souviens bien, en 2002, et Le Livre d'Eli en 2010. Des films très, très sanglants, mais très, très réussis. Et donc, Alpha est le premier film réalisé seul par Albert Hughes, sans son frère. Alors, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la musique, elle est signée de Joseph S. Debizzi et de Michael Stern, et qu'on va évidemment en écouter un extrait, Alpha, dans 24 notes secondes. Là encore, une musique abondamment, oserais-je dire, lourdement électronique pour un extrait de la bande originale d'Alpha, un film d'Albert Hughes tourné en 2018. Un film donc qui se passe au Paléolithique. Alors on va se quitter en écoutant un large extrait de la bande originale d'un film qui ne se passe pas entièrement dans la préhistoire, mais qui y commence, et pour des scènes ô combien fameuses. Personne, je pense, n'aura oublié la représentation de singes qui sont dans un désert indifférencié, qui font des activités diverses, et puis tout à coup apparaît devant eux un monolithe noir qui fait un bruit tout à fait étrange, et l'un des singes a l'idée de prendre un os et de taper taper dessus avec l'os sur un de ses copains. Alors, je ne sais pas si c'est le moment où on passe de la préhistoire à l'histoire. C'est peut-être plutôt l'inverse, mais en tout cas, ce sont les scènes d'ouverture, évidemment, vous les avez reconnues, du fameux 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, un film tourné en 1968 et qui, plus de 50 ans plus tard, reste le film de science-fiction de tous les films de science-fiction. C'est même pas la peine d'y penser. Avec vos effets spéciaux numériques tout pourris et vos histoires qui viennent soi-disant du Moyen-Âge, 2001, je pense que ce sera indéfiniment le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Un film raffiné qu'on ne finit pas de redécouvrir à chaque revision, uniquement au cinéma. Uniquement au cinéma. Et eh bien, en l'espèce, il n'y a pas de musique sur cette partie consacrée à la préhistoire. Là encore, on se souviendra d'un plan resté fameux dans l'histoire du cinéma où on voit le singe donc, qui a découvert que ça pouvait servir d'arme, jeter l'os dans l'air et l'os se transforme en vaisseau spatial. Il résume du coup quelques milliers d'années d'histoire. Quand on est un génie, on est un génie. C'est comme ça. On trouve des choses pareilles. Et à ce moment-là, eh bien, on voit un vaisseau spatial qui flotte dans l'espace sur... Alors là, ce n'est pas de la musique électronique. Sur une musique absolument fameuse. Alors je pense que vous l'auriez reconnue, mais je vous la cite quand même. C'est le beau Danube bleu de ce cher Johann Strauss. Alors l'effet est absolument saisissant. L'esprit viennois avec les vaisseaux spatiaux. Mais ça marche. Et ça marche toujours 50 ans plus tard, comme vous pouvez en juger maintenant. Allez, Johan, à toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye. 1, 2, 3.